entre son frère et Edward Bancho. Ce dernier ne pouvait s'empêcher de regarder avec anxiété la boîte à café et n'était pas moins stressé par les pèlerins pittoresques qui entouraient le taxi. À présent, on voyait se glisser dans la foule quelques petits vendeurs à la sauvette, les bras remplis d'icônes religieuses bon marché, des statuettes de Guadalupe, des Christs pas plus grands que le doigt en proie à toutes les affres de la crucifixion, et même la hideuse Coatlicue, avec sa jupe de serpent et son collier si saillant de cœurs, de mains et de crânes humains. Lupe était mortifié de voir autant d'exemplaires de la grotesque figurine que le brave gringo lui avait offerte. Un des petits camelots à la voix de Crécelle devait avoir une trentaine de statuettes de Coatlicue, toutes vêtues de serpents qui se tordaient, toutes arborant une poitrine flasque et des tétons crotales. Chaque figurine, comme celle de Lupe, avait des mains et des pieds griffus.
La tienne est unique, Lupe. Parce que c'est celle que le gringo bueno t'a donnée, dit Juan Diego. Tu lis trop dans les pensées.
Ah, je sais, se réjouit le chauffeur de taxi. Si elle parle pas en nahuatl, c'est qu'elle a un problème d'élocution. Et vous l'emmenez à l'éleveuse de coyotes pour qu'elle la guérisse.
Laissez-nous descendre de votre taxi puant, on ira plus vite à pied, espèce de bite de tortue, lança Juan Diego.
Je t'ai vu marcher, Chico, dit le chauffeur. Tu crois que Guadalupe va guérir ta boiterie, hein?
On s'arrête là? Demanda Edward Bancho aux enfants.
Ça n'avance pas, s'écria Lupe. Notre chauffeur a baisé tellement de putes qu'il a le cerveau aussi ratatiné que ses couilles.
Lorsque Seigneur Eduardo mit la main au portefeuille pour payer le taxi, Juan Diego lui recommanda en anglais de ne pas donner de pourboire.
Hijo de la chingada, lui lança le chauffeur.
Ce qui, selon Juan Diego, voulait dire fils de pute, et qui correspondait plus ou moins à ce que Sœur Gloria pensait de lui. Lupe n'était pas sûre que le mot chingada veuille dire pute. Elle avait maintes fois entendu les petites acrobates l'employer. Pour elle, il signifiait plutôt enculé.
Pinche pendejo chimuelo, cria-t-elle au chauffeur.
Qu'est-ce qu'elle baragouine, l'indienne, s'enquit celui-ci.
Elle dit que vous êtes un sale trou du cul édenté.
On voit bien que vous vous êtes fait démolir la gueule.
Quelle belle langue, soupira Edward Bancho. C'était son refrain habituel. J'espère que j'arriverai à l'apprendre. Je n'ai pas l'impression de faire beaucoup de progrès.
Aussitôt, tous trois furent emportés par la foule. Devant eux, un groupe de bonnes sœurs avançait à genoux, habits troussés à mi-cuisse, genoux meurtris par les pavés. Puis les enfants et le missionnaire apostat furent retardés par les moines flagellants d'un obscur monastère. Leurs robes de bure empêchaient de voir le sang couler, mais au claquement sec des fouets, Seigneur Eduardo eut un mouvement de recul, et partout des enfants, en uniforme, tapaient sur des tambours.
« Seigneur !» se borna à dire Edward Bancho.
Il ne faisait plus attention à la boîte à café de Juan Diego. Trop de choses abominables s'offraient alentour, et dire qu'il n'était même pas encore arrivé au sanctuaire. Dans la chapelle du Petit Puits, ils durent jouer des coudes parmi les flagellants qui se donnaient en spectacle. Une femme se labourait le visage avec une pince à ongles. Un homme s'était martelé le front avec la pointe d'un stylo, le sang et l'encre mêlés lui ruisselaient dans les yeux. Il battait sans répit des paupières, on aurait dit qu'il pleurait des larmes purpurines. Lupe voulait voir les hommes en costume cravate. Bancho la fit monter sur ses épaules. Les businessmen avaient retiré leurs bandeaux pour contempler Notre-Dame de Guadalupe sur son lit de mort. La Virgen Morena reposait dans son écrin de verre, mais les hommes encordés n'étaient pas désireux de quitter les lieux et de laisser les autres pèlerins approcher. Le prêtre qui les avait conduits jusque-là poursuivait ses incantations. Les bandeaux à la main, il avait l'air d'un serveur mal fagoté qui aurait par étourderie ramassé les serviettes de table d'un restaurant évacué lors d'une alerte à la bombe. Heureusement que la musique couvre les incantations du prêtre, se disait Juan Diego. Il répétait comme un disque rayé les paroles fameuses de Guadalupe. « No estoy aquí, que soy tu madre ?»« Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ?» Propos incohérent dans la bouche d'un homme qui tenait à la main une dizaine de bandeaux.
« Laissez-moi descendre, je veux pas voir ça !» dit Lupe.
Mais l'Américain ne comprit pas et Juan Diego dut traduire.
« Ces têtes de biroute de banquiers n'ont pas besoin de bandeaux, ils sont miro, même sans !» ajouta Lupe.
phrase que Juan Diego ne traduisit pas. Les techniciens du cirque appelaient les mâts du chapiteau les biroutes de rêve. Ce qui les attendait maintenant était la montée interminable menant à El Cerrito de las Rosas. Véritable épreuve de dévotion et d'endurance, Edward Bancho entama courageusement l'ascension en prenant cette fois l'infirme sur son dos, mais il y avait trop de marches, la côte était trop longue et trop pentue. « Je peux marcher, vous savez, lui dit Juan Diego. Ça ne change rien que je boite, j'ai toujours boité. » Mais Seigneur Eduardo persévérait dans cet effort surhumain. Il cherchait sa respiration, le fond de la boîte à café cognait sur le haut de son crâne au rythme de ses pas. Pour tous ceux qu'il croisait, le jésuite à bout de souffle ressemblait à n'importe quel pèlerin suicidaire. Il aurait pu tout aussi bien transporter des parpaings ou des sacs de sable qu'un infirme sur ses épaules. « Tu sais ce qui va se passer si l'homme perroquet tomberait de mort ?» demanda Lupe à son frère. « Tu pourras plus sortir de ce pétrin et de ce pays de fous. » Les deux enfants songeaient à ce qui pourrait leur arriver si Edward Bancho périssait en gravissant la montée d'El Cerrito. Ils avaient fait le rapprochement avec les complications auxquelles conduisait la mort d'un cheval. Mañana, n'était-il pas étranger à la ville? Le jésuite n'était-il pas lui aussi étranger à la ville? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Lupe et moi? Se demandait Juan Diego. Naturellement, Lupe avait la réponse. Faudra prendre des sous dans ses poches, de quoi payer un taxi pour rentrer au cirque. Sinon, on se fera enlever et vendre au bordel de la ville. « D'accord, d'accord !» criait Juan Diego. Puis il s'adressa à Bancho, en nage et hors d'haleine. « Faites-moi descendre. Laissez-moi me débrouiller tout seul. J'irai plus vite, même à quatre pattes. Si vous mourrez, je serai obligé de vendre Lupe à un bordel d'enfants pour pas mourir de faim. »« Jésus miséricordieux !» lança Edward Bancho en s'agenouillant sur les marches. Il ne priait pas. Il n'avait même plus la force de faire descendre Juan Diego de ses épaules. Il n'aurait pas pu faire un pas de plus. Les deux enfants à ses côtés, il essayait de reprendre son souffle. Une équipe de télévision s'approcha d'eux. Des années plus tard, en le voyant mourant, le cher homme avait de nouveau bien du mal à respirer. Juan Diego se remémorerait ce moment où les gens de la télé les avaient rejoints sur les marches de l'église des Roses, comme Lupe l'appelait. La journaliste, une jeune et jolie femme, faisait un compte-rendu sans fioriture du miracle. Elle commentait sans doute un documentaire ou un clip touristique, rien de compliqué ni de sensationnel. En 1531, lorsque la Vierge apparut pour la première fois à Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un noble aztèque ou un paysan, les avis sont toujours partagés sur ses origines, l'évêque ne voulut pas le croire et lui demanda une preuve. La journaliste s'interrompit en apercevant l'étranger à genoux. Peut-être était-ce la chemise hawaïenne qui avait attiré son regard, ou encore les deux enfants inquiets à ses côtés. Le cadreur fit pivoter sa caméra. Elle lui plaisait bien cette vision d'Edward Bancho à genoux, près de deux enfants attendant qu'il se relève. Ce n'était pas la première fois que Juan Diego entendait parler des avis partagés, même s'il aimait à penser qu'il portait le nom d'un paysan. Il aurait été contrarié de le devoir à un noble aztèque. Le mot « noble » ne collait pas à l'image qu'il avait de lui-même, celle d'un porte-drapeau des lecteurs de la décharge. Seigneur Eduardo avait repris son souffle. Il se releva et entreprit de poursuivre l'ascension. Mais le cadreur avait remarqué l'infirmité de Juan Diego et zoomé sur le garçon qui gravissait les marches vers El Cerrito de las Rosas. L'équipe de télévision emboîta donc le pas à l'Américain et aux enfants qu'elle suivit dans leur progression. Quand Juan Diego retourna sur la colline, la Vierge lui apparut de nouveau, et elle lui demanda de cueillir des roses et de les apporter à l'évêque, poursuivit la jeune journaliste. Au moment où ils parvinrent au sommet, toute la ville de Mexico s'étendait derrière eux. Le cadreur fit un plan du panorama, mais Edward Bancho ne se retourna pas pour le voir, pas plus que les deux enfants. Juan Diego tenait précautionneusement la boîte à café dans ses mains, comme une offrande sacrée qu'ils apporteraient à la petite colline, l'endroit précis où avaient poussé les roses miraculeuses. Cette fois, l'évêque le crut, et l'image de la Vierge s'imprima sur le tissu de sa tunique. La jolie journaliste poursuivait son récit, mais le cadreur avait délaissé Seigneur Eduardo et les enfants, reportant maintenant son attention vers quelques couples de Japonais en voyage de noces,